Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Alexandre Goudarzi, auteur de cet ouvrage Guerrier de la paix. C'est votre témoignage. Vous revenez aussi, entre autres, bien sûr, sur le Moyen-Orient et puis l'expérience de ces 66 jours de prise d'otage avec, vous étiez quatre, où vous avez vécu, vous l'écrivez, et vous avez une belle plume, où vous avez vécu finalement l'angoisse et puis l'enfer. Avant de revenir sur cette traversée des 66 jours. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur l'homme, son parcours, et puis ce chemin que vous allez faire, ce chemin un petit peu de conversion? Vous avez évoqué vos 9 mois chez les franciscains à Cholet, 9 mois de réflexion en vue peut-être d'un appel vocationnel. Et puis au bout de ces 9 mois, vous êtes parti de ce couvent, mais bien avant l'expérience du couvent, quel était un petit peu le parcours d'Alexandre Goudarzi dans les cités des banlieues de la banlieue de Cholet?
C'est ça.
C'était un chrétien catholique pratiquant. C'était, vous en étiez où dans la foi avec Dieu, avec celui que vous nommez aujourd'hui comme ce fidèle?
Alors moi déjà, ma mère est chrétienne, en tout cas de culture. Ma grand-mère, la maman de ma maman, est très priante. On est originaire de Sainte-Anne-d'Auray. En revanche, mon père est musulman, c'est un Iranien chiite qui est arrivé après avoir participé à la révolution islamique en Iran, mais qui a fui la guerre en Irak par le Pakistan, l'Afghanistan, puis qui est revenu au Pakistan pour prendre un vol pour arriver en France. Je suis né à Cholet, mais j'ai grandi dans les banlieues rennaises. Ensuite, je suis arrivé à Cholet et j'étais pareil dans les différents quartiers périphériques de la ville.
Donc, vous êtes breton?
Oui, breton, vendéen et iranien.
Oui. Voilà, oui. Breton, donc avec vendéen. L'histoire de la Vendée.
Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et, oui. Et en gros, bon, voilà, j'ai grandi dans des quartiers souvent très prolétaires, là où Dieu n'existe pas, en fait, chez les Français de souche, dont la société, en fait, a été largement gagnée par le socialisme, le communisme depuis plusieurs décennies, et dans les quartiers qui, avec lesquels on vit, en fait, si immigration il y a, elle est majoritairement musulmane. Donc des gens qui, pour le coup, eux, au contraire, ont un cadre, en fait, qui est vraiment culturellement, traditionnellement bercé, en fait, par la vision de l'au-delà, une structure très verticale, une religion, le respect des anciens, de la foi, des aînés, etc. Le système, enfin, les Français de souche, c'est très monoparental, enfin, c'est vraiment très très différent, perte de repères, etc. Et sur ce chantier où, en fait, la laïcité, voire le laïcisme, a complètement déchristianisé les nôtres, l'islam n'a pas besoin de détruire le christianisme, il est déjà mort de lui-même, c'est-à-dire c'est un problème franco-français, et l'islam bâtit sur nos ruines, et c'est comme ça qu'ils ont toujours fait, hein, quasiment, et ça c'est, même dans l'histoire, on peut le regarder, bon, c'est un autre sujet.
C'est un professeur d'histoire aussi, qui parle.
Oui. Et donc, voilà, donc en fait, moi en plus, comme j'étais d'origine musulmane par mon père, et en grandissant dans cette violence urbaine, nourrie à la haine anti-France, anti-occidentale, j'étais très tenté de me convertir à l'islam. Des copains français de souche 100%, eux, se convertissaient. Et en fait, moi, j'étais sur le point de me convertir également. Je me souviens que j'avais 17 ans quand les tours du 11 septembre s'écroulent sous les attaques, etc. Je porte Ben Laden avec une grande admiration. Je pense à partir, moi aussi, m'entraîner. Si c'est pas en Iran, c'est en Afghanistan. Bon, des gens qui connaissent la géopolitique disent, bon, c'est pas très compatible. Les Iraniens sont pas du tout amis avec les talibans ou avec les sunnites wahhabites. Mais à l'époque, on voit l'acte de Ben Laden, Al-Qaïda. On voit pas quelque chose d'encore très islamiste. C'est signé. On sait que c'est l'islam. Mais on voit ça davantage dans une lutte anti-impérialiste. Et ça gagne, en fait, le milieu de cette France d'en bas. On est gagné par cela, qu'on soit musulman ou non. Après, les choses se précisent avec le temps, et donc effectivement c'est très islamiste et c'est très exclusif, mais on voit pas les choses de cette manière là et moi je suis très séduit par cela, j'ai de la haine à revendre et je suis quelqu'un qui se pose la question à un moment donné de partir. Alors, je voyage beaucoup dans ces pays là mais je franchis pas le pas, en fait je suis encore et entre temps
qu'est-ce qui vous retient de ne pas franchir?
Ce qui me retient, c'est que Déjà, ma mère fait la rencontre des franciscains qui s'installent dans ma ville et qui arrivent de Narbonne. Donc, ce sont deux conventuels, parce que des franciscains, vous avez des mineurs, des capucins, et vous avez les conventuels. Et les conventuels, il n'y en a pas plus d'une douzaine à l'époque. Donc, ils arrivent de Narbonne. Il s'agit du père Emidio et du père Daniel qui arrivent à Cholet. Et l'un des deux était un braqueur de banque. Donc, quand ma mère me parle de prêtres qui sont au couvent et dont un qui était lui-même un braqueur de banque, bah, ça me touche parce que c'est mon univers, en fait, c'est mon monde. Moi, j'ai pas un ami qui a pas été en tôle. J'étais moi-même en fait à l'époque inculpé dans des affaires de vol à main armée. Donc, c'est des affaires qu'on traînait en longueur. Hein, c'est des affaires qui nous ont fait souffrir dans ma famille. J'avais plusieurs affaires qui se croisaient. J'étais persuadé et la justice. Enfin, c'est pareil. C'est pas un concours de circonstances, un vrai miracle que je suis pas allé en prison. Mais ça me pendait plus qu'on est, hein. Pour moi, c'était ma réalité, en fait. Et j'avais cet adage qui résonnait en moi, mieux vaut régner en enfer que d'être esclave au paradis. C'était mon monde, j'étais très fataliste. Et je voulais pas être au dernier rang dans l'école de la rue. Donc, pour moi, l'initiation, la prison était une initiation, je devais y passer. Et ça me faisait pas peur, en fait. J'étais prêt à y aller. Et puis, voilà. Pour moi, c'était inévitable. Donc, il fallait se jeter à l'eau. Terminé. Et en fait, j'ai rencontré les franciscains à ce moment-là. Ma vie a vraiment changé. Ma vie a vraiment changé. Ils m'ont littéralement sorti de la rue, de la mort, de la drogue, du trafic, des histoires, des embrouilles, des commissariats, des procès. Ma vie a vraiment changé. Et en parallèle à cela, je voyageais. J'étais toujours en lien avec l'Orient. Mais j'avais plus cette optique de partir me battre. Alors ça revenait, hein, comme un vieux démon.
Alors vous parlez aussi de ces nombreux voyages, mais vous n'êtes pas encore dans ces voyages avec l'association
d'SOS chrétien. Elle est loin d'exister à cette époque-là.
Elle n'existait pas à l'époque.
Non, oui. du tout.
Donc vous voyagez en touriste ?
Je voyageais, d'abord j'allais en Iran parce que c'était le pays de mon père. Et que,
donc besoin de reconnaître un petit peu ses
les
racines.
Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que quand j'ai commencé à retrouver mes racines à travers l'Iran, je prenais le package complet. Je prenais l'islam qui allait avec et ma maman m'avait dit, mais... Parce que moi, je disais, ouais, mais bon, j'essaie de trouver des compromis. Mais bon, t'inquiète pas, maman, après tout, tu sais, dans l'islam, Jésus, c'est un prophète. Il dit, mais c'est le fils de Dieu, en fait. Tu peux pas le renier. Si tu rougis de son nom devant les hommes, il rougira de ton nom devant le Père. Et ça m'avait vraiment touché. Je pouvais pas accepter dans mon cœur de quelque part, de le renier, de rougir de lui, de le reléguer au rang de simple prophète, quoi. Il est beaucoup plus que ça. Et j'étais en train de l'expérimenter dans ma vie. Et en fait, c'était beau parce que quand les franciscains sont arrivés dans ma ville, peu de temps, quelques mois avant, ma mère lisait des Fleurs en enfer, les franciscains du Bronx. Et ça me touchait, en fait. Mais pour moi, ça m'insupportait parce que c'était des belles choses qui arrivaient aux autres, pas à moi. Et en fait, ça m'est arrivé à moi avec, pas les franciscains du Bronx, mais les franciscains de Cholet. Et donc, en fait, il y avait tout ce cheminement. Donc, les choses se mettent en place et dans le dessein de Dieu qu'on peut pas comprendre quand on a la tête dans le guidon. Mais quand on voit le chef-d'œuvre avec le recul, avec le temps et avec un peu de hauteur, c'est juste magnifique, en fait, ce qu'il fait dans nos vies. Et ça n'a pas fini parce que des années plus tard, jusqu'à l'enlèvement, quand on voit où est-ce qu'il nous mène, c'est juste beau, en fait. Voilà, bref. C'est juste très, très beau.
Merci parce que on entend aussi que vous êtes un miraculé de Dieu.
Oui. Et mon histoire a commencé aussi, avec Lourdes, on pourra y revenir plus tard.
Hein, si on y reviendra plus tard, oui. On parlait aussi de ce besoin aussi à travers ces voyages au Moyen-Orient et puis de retrouver vos racines, vos propres racines avec cette recherche au fond identitaire du père, des parents, je crois, séparés, divorcés.
C'est ça, oui, très rapidement.
Ouais. Oui, vous avez vécu avec votre maman.
J'ai vécu avec ma maman.
Est-ce que ce manque
toute ma
vie, du père a été réel manque pour vous dans votre vie d'homme?
Donc, bien sûr, ça a été terrible. Mes parents se sont mariés que civilement. Toute mon enfance, il était en prison. Quand ma sœur est née, il était en prison. Quand ils se sont séparés géographiquement et qu'on est parti à Cholet, j'avais 9 ans. Je l'ai pas revu avant l'âge de 15 ans. Et j'ai souffert terriblement, en fait, de son absence. Et quand il est revenu, malheureusement, c'était pas pour que ça aille mieux parce que mon père était quelqu'un de très particulier. Donc, il m'a aussi détruit. Ça m'a pas fait de bien, en fait, de le revoir. Donc voilà, le vivre ensemble, la diversité culturelle, le métissage, tout ça pour chez nous, en fait, s'il y avait pas eu Dieu, en fait, ça n'était que drame et tragédie. Donc c'est l'identité. Pour moi, ça a été important. C'est-à-dire que j'ai compris ce que ça voulait dire être français, mais dans une définition qui est indissociable du christianisme. Voilà.
Donc, pour vous, être français ?
Pour moi, être français, c'est être chrétien. Je le pense sincèrement. C'est-à-dire que je ne me serais pas sauvé par la République et ses différentes conditions d'intégration. En fait, c'est pas ça qui me parle. En fait, je pense que ça parle à personne. Et c'est pour ça qu'en fait, on est faible devant un islam qui, lui, est très consistant et cohérent en plus.
Vous êtes en colère
contre... Non, du tout, passionné.
Passionné, oui, mais ah oui, un peu de colère par rapport à la République française.
En fait, il faut comprendre que il faut arrêter de regarder les autres avec la propre définition qu'on a de soi. Et en plus, elle est erronée, cette définition qu'on a de soi, parce que la France, la République est laïque, la France est chrétienne, ça c'est un fait. Il ne faut pas regarder l'islam avec cette espèce de séparation, en fait ce côté un peu séculier, ce côté où on sépare le privé du public, le religieux du politique, parce que ça c'est nous les chrétiens. On est tellement séparés de la sphère spirituelle, etc., qu'on est carrément déchristianisés. Et vous pensez qu'en regardant les musulmans, vous avez à obtenir le même résultat avec la République française? Ça ne marche pas en fait. Et à mesure que la République crée l'écart entre le divin et l'humain, eh bien, les musulmans se radicalisent. Parce que ce que vous leur proposez, la prostitution de la femme, la consommation à outrance, la gay pride, etc., la décadence, l'aspect blasphématoire récurrent, mais vous leur faites péter les plombs. Ils n'accepteront jamais ça. Et ils se radicaliseront et ils ne montreront que toujours davantage le visage le plus hideux de l'islam. En fait, on les radicalise, on les aide à se radicaliser. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup pour les radicaliser, mais on ne favorise pas du tout ça, en fait. Donc, voilà. Et je pense qu'avec beaucoup de niaiseries et beaucoup de charité désordonnée en faisant toujours le plus grand des accueils, parce que c'est un véritable danger aussi. Il faut savoir qui on reçoit, il faut savoir où ils vont quand on les reçoit chez soi.
Il faut savoir qui on reçoit et comment on accueille et pourquoi on accueille.
Bien sûr. Et quand on ne se connaît pas soi, on ne peut pas s'aimer. Alors, au nom de quel amour est-ce qu'on prétend recevoir les autres ?
Connaître son identité.
Oui, bien sûr. C'est la charité ordonnée, en fait. On ne peut pas prétendre aimer les autres si on ne s'aime pas soi. Et nous ne nous connaissons pas. On n'assume pas notre héritage. On ne connaît pas notre histoire. Alors comment on peut prétendre faire l'accueil de tous ces gens-là par amour,
ou alors
par charité?
Ou alors on peut faire un déni de cette histoire que l'on connaît.
Oui, bien sûr. Mais après, institutionnellement parlant, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas qui ils sont, en fait. On ne sait plus qui on est. Enfin bon, c'est terrible, mais...
Alors vous savez qui vous êtes.
Moi j'ai appris et j'ai appris à aimer la France en voyageant et en voyant combien les peuples qui m'ont accueilli aimaient leur identité, leur histoire, même si elle n'est pas toujours rose.
Alors vous nous en direz un peu plus et vous nous
Avec
direz
plaisir.
Un petit peu et vous nous témoignerez, Alexandre Goudarzi, auteur de ce livre témoignage, mais aussi il y a aussi de l'histoire sur le Moyen-Orient. Ce livre s'intitule Guerrier de la paix. Vous êtes un guerrier combatif, passionné et est-ce que vous êtes un homme heureux, malgré, je dirais, ce monde et cette humanité qui brûle, qui semble brûler aussi encore au Moyen-Orient ?
Bien, effectivement, si c'est difficile. Enfin, oui, moi je suis heureux, mais parce que je m'accroche au Seigneur aussi. Parce que si vraiment je devais faire abstraction de cela, je crois qu'il n'y a pas forcément grand-chose de très réjouissant dans ce que je vois quand je suis au Moyen-Orient.
Donc vous avez de l'espérance ?
Oui, bien sûr.
Alors gardons cette espérance.
Gardons-la, oui.
Alors on est ici dans ce sanctuaire de Lourdes, près de l'Immaculée Conception. Vous avez aussi une petite histoire avec l'écriture de cet ouvrage, votre expérience et puis la Vierge de Lourdes. On en parle demain. Et merci.
Avec joie. Merci.